RCF.
Saint Thomas d'Aquin, immense théologien et maître de la philosophie scolastique, ayant formé des générations de théologiens, de philosophes, de prêtres, Saint Thomas d'Aquin peut-il encore nous instruire ? Peut-il encore parler à tous pour répondre aux questions et aux crises de notre temps ? Quelle est l'actualité de Saint Thomas d'Aquin ? Pour répondre à ces questions, je suis très heureuse d'accueillir frère Daniel Bourgeois de la Fraternité des moines apostoliques de Saint-Jean-de-Malte et prêtre à Saint-Jean-de-Malte pour une deuxième émission où nous redécouvrons avec vous la pensée de Saint Thomas d'Aquin. Bonjour frère Daniel.
Bonjour Sarah.
Vous avez publié plusieurs ouvrages, pour en citer quelques-uns, L'un et l'autre sacerdoce, et puis Être et signifier, une réflexion sur la sacramentalité chrétienne, réflexion qui s'appuie sur des sources antiques, médiévales, en particulier Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin. On peut, dans une perspective anthropologique, définir le sacrement comme un acte rituel, c'est ce qu'on trouve dans certains dictionnaires. Le sacrement n'est pas que du rituel. Alors, comment rendre compte de ce qui, dans le sacrement, signifie une réalité invisible ? C'est ce que saint Thomas d'Aquin a percé à jour.
Ouais. Alors, évidemment, là, il faut tout de suite poser une limite. C'est-à-dire que, où fonctionne le langage ? Le langage fonctionne dans la tête et le cœur de ceux qui le connaissent. C'est-à-dire que si vous passez une excellente émission de radio RCF en Tchécoslovaquie avec des gens qui ne connaissent pas le français, incompréhensible. Je dirais que c'est un peu le même problème pour les sacrements. Certes, l'origine du sacrement, celui qui, comme on dit, institue le geste, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même, dans son pouvoir créateur, il a une visée universelle pour tout le monde. Et simplement, les signes, ça marche dans certains cas, quand on les comprend. C'est la fameuse, déjà, vous touchez tout de suite un problème énorme, celui de la querelle du blé et du riz en Chine, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là, quel est le signe qui va être parlant? Il est certain que dans le contexte méditerranéen, mais là je m'avance pas plus, il est certain que dans le contexte méditerranéen, les éléments qui ont été choisis pour que des signes deviennent des sacrements et deviennent parlants, ça a été en général le pain, le vin, l'eau, l'huile, tout ça. Évidemment, j'allais dire, si on cultive pas d'olivier, on comprend pas l'onction des malades. Hein. Mais on fait ce qu'on peut. Et donc, vous voyez, il y a une limite au système. Et cette limite, on la touche d'autant plus que, quand c'était au XVIe siècle que les jésuites allaient, avec Matthieu Ricci, etc., rencontrer l'empereur de Chine, bon, ça l'intéressait, j'allais dire, à titre de connaissance culturelle, mais ça le briefait pas beaucoup. Hein. Tandis que maintenant, nous sommes dans une civilisation, le multiculturalisme, c'est un truc irréfutable. Donc, il doit y avoir, enfin, en tout cas, il faut veiller à ce que, d'abord, dans le milieu où les signes ont été élaborés, approfondis, célébrés, ritualisés, etc., que ça ne reste pas un truc fermé, que ce soit pas clos. Il faut que ce soit quelque chose de suffisamment clair pour que, même si les matériaux utilisés, prenant les matériaux, que ça reste quand même parlant. Et c'est là où, personnellement, je crois, par exemple, dans l'Eucharistie, bon, tout le monde est focalisé sur le pain et le vin. Bon, moi, je suis d'accord. Je pense que je préfère célébrer avec du pain et du vin plutôt qu'avec de la vodka et du... Ce serait peut-être pas mal non plus. Donc, on focalise sur ça. Mais en réalité, où est le cœur même de l'Eucharistie ? C'est le peuple de Dieu rassemblé qui, dans la foi, partage le pain et boit la même coupe. Autrement dit, la signification du vin, elle est dans le fait que je partage avec d'autres une coupe, et partager une coupe, c'est être engagé dans la même histoire. Donc, le sacrement de l'Eucharistie lui-même, il n'est pas quand même simplement... Alors, ce que je pense, c'est que peut-être il faut à ce moment-là, en fonction des situations, etc., voir exactement ce qui peut être le plus adapté. Mais sur le fond, il ne faut pas non plus réduire le signe à la matérialité de ce qu'il représente. Et donc là, c'est la première chose. Voilà.
Alors sur cette question de l'Eucharistie, je reviens à Saint Thomas d'Aquin. À Orvieto, entre 1261 et 1265, Saint Thomas a composé l'office liturgique de la fête du Saint-Sacrement. Et on a évoqué un approfondissement de l'intelligence de l'Eucharistie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi s'agit-il qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
En fait, c'est vrai que la compréhension du mystère du corps du Christ est complètement focalisée sur la transformation. Et que là encore, je crains, là je parle pas au nom de l'Église, je crains qu'à se focaliser uniquement sur la transformation, on n'ait pas vu que où on n'est pas suffisamment souligné que la vraie transformation, c'était que tout le monde participant au même pain, nous devenons tous le même corps. D'ailleurs, il y a un cantique moderne qui le dit, et c'est très juste. C'est-à-dire que, vous comprenez, si on réduit le geste sacramentel uniquement à des formes extérieures, si on réduit uniquement à des formes extérieures, eh bien, effectivement, à ce moment-là, ça devient un tout petit peu de l'exécution mécanique d'un certain nombre de gestes. C'est-à-dire, on retombe dans ce que toutes les religions ont toujours préconisé par sécurité pour dire « ça marche », de dire « il faut que ce soit ça ». Mais en fait, moi, je pense que le véritable sacrement, quand on voit l'Église qui se rassemble autour de l'Eucharistie, bien sûr que c'est le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang de Christ, mais c'est surtout l'assemblée qui devient le corps de Christ. Là, c'est quand même d'un autre ordre.
Et alors, sur cette question que vous avez beaucoup travaillé de la signification, du sacrement comme cause de signification, finalement, on trouve autour de peut-être de l'approche de l'Eucharistie, chez saint Thomas d'Aquin, une réflexion aussi sur la parole. Ceci est mon corps.
Oui.
Donc, cette parole, un linguiste aujourd'hui dirait c'est une parole performative, c'est-à-dire on dit quelque chose et ça exécute, ça fait. On dit, donc, ceci est mon corps... Ceci, qu'est-ce que c'est? Comment vous
Moi, je pense que c'est ceci. Ce signe. C'est par le pain, mais comme un signe, mais le pain ne désigne pas simplement lui-même. C'est pas un signe autoréféré. C'est pas un signe pour lui-même. C'est un signe qui, par le fait que je participe et que je reçois ce corps, ce pain, eh bien, je deviens corps du Christ avec tous mes frères qui y participent. Ça, vous voyez, la fin, le but du sacrifice eucharistique, le but c'est unitas ecclesiae, ça saint Thomas le disait. Et à mon avis, il avait parfaitement raison. C'est-à-dire, le but c'est que l'Église soit une par le corps du Christ. Et donc, le signe à ce moment-là est non seulement, je veux dire, performatif, mais renvoie presque hors de lui-même. C'est un des trucs... sur lesquels, moi, je ne sais pas si vous avez des idées du point de vue philosophique là-dessus, mais moi, je suis quand même étonné que Jésus ait choisi lui aussi, pour manifester sa présence et son action, qu'il ait choisi les réalités les plus légères, c'est-à-dire des paroles ou des gestes, comme dit saint Augustin, des gestes les plus familiers, les plus simples. Mais précisément, le signe par lui-même n'est que renvoie à autre. Me souviens, j'avais envoyé une fois un texte à un théologien parisien qui est décédé depuis, qui m'avait dit, moi ce qui m'intéresse dans ce que vous travaillez, c'est le fait de renvoyer à l'altérité. Et ça c'est, la plupart du temps, et ça je dois dire, les catholiques ne sont pas toujours à l'abri de ça, on a voulu que le signe ne renvoie qu'à lui-même. Mais le signe, précisément, il montre quelque chose. Et d'ailleurs, on ne dit pas, quand on fait la consécration, on ne dit pas « je suis du pain ». Même le prêtre ne renvoie pas à lui-même. Il est le signe de la présence de celui qui vous a rassemblé. On peut pas dire mieux l'altérité.
Saint Thomas d'Aquin nous donne l'intelligence de cette question.
Et ça, grâce à Saint Augustin.
Le signe vers quoi,
hein, le signe
vers quoi tend-il? Mais aussi, peut-être, qu'est-ce qui fait signe vers le divin dans le sacrement? La réalité, les mots, le geste du prêtre.
Tout. C'est pour ça que, bon, l'Église a toujours été un peu suspicieuse sur l'exactitude des rites, etc. Aujourd'hui, on voit d'ailleurs un certain retour de ça, une sorte de scrupule. Il faut faire tout. Avant, il fallait mettre les doigts comme ça.
Une sorte de formalisme, vous voulez dire, d'approche un peu juridique.
Oui, juridique, ou on dit tradit aujourd'hui. Mais c'est pas ça le problème. C'est que, par définition, le signe me renvoie à autre chose. D'ailleurs, il me renvoie à quoi d'abord? À cette autre chose qui est Dieu, dont il est le signe. Le corps du Christ, le petit morceau de pain et la petite bouchée de vin, ça me renvoie au mystère de Dieu. Ceci est mon corps. C'est extraordinaire qu'il ait trouvé cette formulation-là.
Et c'est très, on pourrait dire, quelque chose qui a toute son actualité aujourd'hui. J'évoquais ces théories du langage, cette philosophie analytique, philosophie du langage qui insiste sur l'aspect performatif, mais qui, par contre, manque quelque chose, c'est-à-dire qui réduit la signification à un problème, on va dire, arbitraire de relations, de conventions, alors que le christianisme et ces grands auteurs de la tradition comme saint Augustin et saint Thomas nous ont ouvert à autre chose, à cette dimension métaphysique.
Et oui, mais vous, puis, je veux dire, par exemple, moi je pense que, et d'ailleurs il y a eu un certain nombre d'auteurs théologiens qui l'ont dit, les récits de l'Ancien Testament sont des signes. Saint Justin, il s'est régalé là-dessus pendant des pages et des pages. C'est-à-dire, tout fait signe. Quand c'est Dieu qui veut, à travers un signe, manifester qui il est, il renvoie d'abord à lui, il renvoie à nous pour qu'on se retourne vers lui. C'est, le signe est vraiment dans la communication, quoi. Moi, je pense que s'il y a une chose qui est importante dans la com aujourd'hui, c'est de ne pas... Vous voyez, si par exemple, prenons un exemple concret, si RCF ne faisait des émissions que pour parler d'elle, c'est suicidaire. C'est suicidaire, ça ne peut pas marcher. Absolument. Par contre, si à travers des émissions, elle fait connaître quelque chose qui lui tient à cœur, ça y est, c'est gagné. Alors, trouver le bon signe. Alors, évidemment, c'est là où souvent le problème, c'est que, effectivement, quand le Christ, dans sa présence sur la terre, a choisi des choses très concrètes pour manifester sa présence, je veux dire, c'était lié à la culture de l'époque. Ça, c'est sûr. Alors, dans quelle mesure les chrétiens, les communautés chrétiennes, peuvent essayer d'intensifier ou d'enrichir la portée signifiante du geste, ça, ou de la parole, c'est quand même très important.
Dialogue, Sarah Brunel.
Frère Daniel, à l'époque de Thomas d'Aquin, quels étaient les sacrements, on va dire? Est-ce que nous avions à cette époque-là les sept sacrements de l'Église catholique et orthodoxe aujourd'hui?
L'affaire était à peu près pliée. Il y avait sept sacrements. On est allé beaucoup plus loin. On est allé jusqu'à 12,
oui,
ou à,
oui.
Il y en avait 20. Je crois que Saint Bernard en voyait beaucoup. mais bon, c'est-à-dire que là aussi, puisque le sacrement, c'est l'Église, c'est le geste par lequel l'Église signifie son mystère et la présence de Dieu. D'une certaine façon, le Christ a laissé le souci à l'Église de trouver exactement les gestes les plus signifiants. Toutes les fois, on a dit oui, ce geste est bon parce que le Christ l'a fait, mais par exemple, le sacrement des malades, oui, on renvoie au fait que le Christ faisait des onctions d'huile aux malades qu'il rencontrait, d'accord, mais c'était pas d'abord, il avait, je pense qu'il pensait pas à l'extrême onction, au sacrement des malades à l'époque, mais enfin, disons, on sait pas ça. Mais disons, c'est toujours limité par le contexte historique et la visée, mais c'est là où je pense que le Christ a fait confiance à son Église. C'est-à-dire en disant, écoutez, voilà, moi je vous ai dit ce que je voulais, je suis venu pour sauver, pour guérir, pour rassembler, pour faire découvrir la puissance du salut. Bon, ben, voilà les gestes, voilà un certain nombre de panels de gestes que vous avez, mais comme un langage, essayez de trouver le langage qui soit le plus porteur, le plus signifiant. Et c'est ça qui a donné effectivement les sept sacrements. Cela dit, moi je pense que la notion de sacramentalité nous oblige quand même à réfléchir sur le fait que c'est pas limité. Il se peut, on peut pas exclure, mais disons, ce serait quand même un peu étonnant, mais on peut pas exclure qu'un jour, par exemple, dans le baptême, chez les orthodoxes, quand on a baptisé un enfant, on fait les trois sacrements de l'initiation, baptême, confirmation, eucharistie. Qu'est-ce que c'est que la confirmation? C'est ce que ne faisait pas, c'est ce que les orthodoxes faisaient pour dire l'enfant est complètement intégré. Et c'est pour ça que souvent dans les églises orthodoxes, il y a plus de bébés qui communiquent que de personnes adultes. Bon, ça, fermons la parenthèse. Mais alors, en Occident, il se trouve qu'à un moment donné, les évêques ont dit « Oui, mais quand même, maintenant, on ne baptise que des petits-enfants, etc. » Ils se rendent compte de rien au baptême et en réalité, ils ont besoin de rencontrer l'Église et notamment leur évêque. Donc on a dit « On baptise, puis on attend ». Ou plus exactement, l'évêque disait, je me réserve la dernière onction pour l'enfant, et à ce moment-là, je lui donne la confirmation. Je lui confirme sa place dans l'Église, et c'est moi l'évêque qui suis son évêque et qui le confirme. Évidemment, il y a une variante. Est-ce qu'on va en faire une crise nerveuse? Il n'y a pas de quoi, enfin, je pense pas. Bon, de temps en temps, les orthodoxes nous envoient des piques en disant qu'on a inventé un sacrement. Bon, d'accord. Mais en réalité, c'est l'achèvement du baptême.
Alors, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, on peut évoquer aujourd'hui, où j'ai entendu parler d'une crise de la sacramentalité. Vous, frère Daniel, pensez-vous qu'il y ait véritablement une crise de la sacramentalité, peut-être chez certains théologiens ou dans des débats théologiques un peu savants, mais n'y a-t-il pas plutôt un retour à la sacramentalité?
Oui, oui. Moi, je pense plutôt retour. Mais cela dit, ce qui fait la crise de la vie sacramentelle, c'est pas l'intuition du christianisme. C'est le drame de la société actuelle qui a du mal à gérer le problème de la signification. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que quand on est submergé de messages, on ne cherche plus à savoir ce que ça signifie. Et donc, on le voit bien dans les pubs à deux balles. C'est quoi? C'est je montre un petit cabri qui fait des bonds dans les montagnes, et puis je dis bon ben on ne peut acheter que ce fromage-là. Comme manière de tuer la signification, il y a pas mieux. Et faut bien reconnaître que la pub actuellement c'est une tueuse de signification. Et alors évidemment, de temps en temps, on la rachète par l'humour parce que c'est rigolo et c'est bon, mais c'est quand même mauvais, c'est pas bon.
Mais peut-être plus largement notre rapport au monde qui est principalement centré oui. sur l'efficacité, la fonctionnalité, voilà. l'action au et sens, voilà. on voilà. va dire, le voilà. plus fonctionnel du terme.
Vous voyez, je pense que...
Que devient la contemplation dans ce cas-là ?
Mais c'est le problème. Oui. C'est le problème. Quand vous avez... Quand vous visitez une église aujourd'hui, mais déjà simplement le fait d'entrer dans cet espace vous met en état de contemplation. Et vous, peut-être vous admirez que les voûtes sont très belles, très légères, bon d'accord, mais ce que vous admirez c'est quand même cette espèce d'extraordinaire présence d'un espace. Et je veux dire, on dira ce qu'on voudra, mais les voûtes... Les voûtes médiévales, c'est ça. C'est que quand vous voyez ça, vous regardez le plafond. C'est idiot, mais les vitraux, qu'est-ce que c'est que les vitraux ? C'est venu d'une histoire très simple, les vitraux. C'est qu'on s'est aperçu que quand les gens dans le monde ancien rentraient dans un endroit, la lumière pouvait être filtrée. C'était à cette époque-là plutôt de l'albâtre. Et tout à coup, on s'est dit, oui, mais non seulement elle peut être filtrée, elle peut être colorée. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit les architectes et tout ça ? C'est pour ça qu'il y a une telle bagarre avec les histoires des vitraux de Notre-Dame qui sont contestées. Bon. Mais c'est qu'ils ont dit, il faut que cette lumière fasse transparaître la présence des saints à travers la lumière, à travers les scènes de la Bible. Ça. Tout ça, c'est pas des sacrements. Mais tout ça relève de la même théologie de la signification. C'est-à-dire que tout à coup... Alors, évidemment, maintenant, moi, j'ai rien contre, j'adore aller au musée, mais c'est vrai que quand on fait simplement l'exposition des tableaux les uns après les autres, même si des fois c'est très enrichissant et très... Mais ça devient vite une espèce de fossilisation de la signification.
Et cette fossilisation que vous évoquez peut expliquer peut-être aussi, paradoxalement, un certain appétit ou un certain désir de vivre ou d'éprouver dans la foi autre chose.
Ah, bien sûr.
Mais est-ce que alors on n'est pas aussi face à des contradictions un peu de notre époque, c'est-à-dire il y a d'un côté le champ, on va dire, du rituel, de la sacramentalité qu'on a un peu enfermé dans des églises, oui. et puis de l'autre ce développement de la spiritualité où c'est un rapport très intérieur, très individualiste finalement au divin. Alors comment vous pensez que... Parce que justement, peut-être que ces auteurs comme saint Augustin ou saint Thomas d'Aquin nous font comprendre qu'on ne peut pas être aussi clivé.
Tout d'abord, une petite remarque générale. Je n'aime pas Descartes. Pourquoi ? Parce qu'il est le premier qui a dit que nous étions une conscience sur pattes. Et que la conscience est uniquement la machine à faire marcher les pieds. Évidemment qu'à ce moment-là, comment voulez-vous faire une théorie de la signification ? On arrive à l'animal-machine. Effectivement, si c'est l'animal-machine, quelle signification peut y avoir ? Simplement, on fait tourner plus ou moins vite le moteur. Alors, c'est ça qui est dramatique dans l'histoire dans l'histoire de la signification, c'est que quand on a commencé à présenter l'homme comme coupé en deux, le spirituel et le corps, évidemment, les sacrements jouent exactement sur la signification inverse. C'est que tout l'homme, spirituel et corps, signifie la présence de Dieu. Alors ça ici, effectivement, alors comme en plus aujourd'hui, évidemment, on a quand même une vision de la laïcité qui est quand même un tout petit peu bridée, et c'est sûr qu'à ce moment-là, on n'imagine pas qu'il puisse y avoir de la signification religieuse dans le monde. Mais alors s'il n'y a plus de signification religieuse dans le monde, on fait quoi ? On attend qu'on ouvre la portière.
Et cette signification religieuse dans le monde, on pourrait dire que toutes les grandes religions l'ont portée, je pense au judaïsme. Alors vous, frère Daniel, comment vous pourriez nous expliquer que cette question du sacrement, elle prend une dimension très particulière dans le christianisme, qui n'est pas du même ordre, bien sûr, que le judaïsme, mais dont nous sommes les enfants, malgré tout.
Il s'est fait cher.
Oui.
Il s'est fait chair. Ça, je crois que là, Jésus a posé vraiment la base de la notion de sacrement. il a voulu que son humanité, pas simplement son corps, son humanité, tout ce qu'il faisait, les moindres de ses gestes, etc., soit dans sa chair, dans son corps, dans sa visibilité, soit signe de l'invisible. Vous savez, quand on lit Malraux, on s'aperçoit que de temps en temps, il pompait beaucoup de ce côté-là. Et c'est vrai.
Oui, mais peut-être que la fin, vous évoquez cette question de la finalité du signe, ou ce
il l'avait pas lu.
C'est pas simplement le beau ou la beauté, simplement le bonheur.
C'est quelqu'un.
C'est cette altérité que vous évoquiez, vécue dans l'incarnation pour un chrétien.
Et surtout vécue par quelqu'un qui a voulu passer par ça pour entrer dans la réalité de la communication avec les hommes.
Oui. Alors, comment devrions-nous lire et enseigner saint Thomas d'Aquin aujourd'hui? Il y a une lecture très traditionnelle, on peut dire, d'une théologie centrée sur saint Thomas et Aristote, dans la formation, dans la transmission. Est-ce qu'il n'y a pas un saint Thomas qui pourrait faire dialoguer aussi les traditions? Ce saint Thomas universel,
je pense que saint Thomas, contrairement à ce qu'on a dit parfois, il dit que le christianisme, la foi chrétienne, la grâce de la foi, fait communiquer avec... c'est Dieu qui se communique aux hommes et qu'il se communique à travers les paroles, les gestes, les histoires, les événements. Évidemment qu'à partir de ce moment-là, on ne peut jamais dire « là, il parle, là, il ne parle pas ». Et moi, personnellement... Je cite souvent cette phrase qui paraît-il de saint Augustin, mais j'ai cherché partout et je ne la retrouve pas. Saint Augustin disait, l'Église aurait dit, puisque je ne l'ai pas retrouvé, l'Église, on sait où elle est, on ne sait pas où elle n'est pas. Ça, c'est assez subtil. Mais ça veut dire, on sait où elle est, c'est-à-dire que quand il y a une assemblée qui... pour un baptême d'un gamin, pour un mariage. C'est pour ça que moi, je trouve encore extraordinaire que pour les mariages, on a encore gardé ce sens qu'il faut y aller, quoi. Parce que, je veux dire, ils sont un peu fous. Ils se lancent dans une aventure absolument dingue, mais il faut y aller. Donc, c'est l'assemblée. Et moi, je pense que, par exemple, le prêtre préside l'Eucharistie, mais qui célèbre l'Eucharistie, c'est l'assemblée.
Et vous insistez beaucoup sur cette dimension de convivialité, de communion, de présence.
Et surtout que l'assemblée elle-même, l'Église elle-même devient le sacrement le signe qui révèle la présence de Dieu. Donc, dans les autres religions, à certains moments, certaines rencontres, ça existe. Il y a sans doute, Dieu était là et je ne le savais pas.
Merci infiniment, frère Daniel, pour votre présentation et votre réflexion autour de cette actualité de saint Thomas d'Aquin. Merci à nos amis de RCF Marseille qui nous accueillent aujourd'hui dans un de leurs studios à Aix-en-Provence, et tout particulièrement merci à Frédéric Banegas, grâce auquel cet entretien a pu être enregistré dans des conditions idéales.
Et merci à Sarah d'avoir posé de si merveilleuses questions.